Pythagoras adombra la vérité de plus près. Jugeant que la connaissance de cette cause première et être des êtres devait être indéfinie, sans prescription, sans déclaration, que ce n'était autre chose que l'extrême effort de notre imagination vers la perfection, chacun en amplifiant l'idée selon sa capacité. Mais si Numa entreprit de conformer à ce projet la dévotion de son peuple, l'attacher à une religion purement mentale, sans objet préfixe et sans mélange matériel, il entreprit chose de nul usage. L'esprit humain ne se saurait maintenir vagant en cet infini de pensées informes. Il les lui faut compiler à certaines images à son modèle. La majesté divine s'est ainsi pour nous aucunement laissée circonscrire aux limites corporelles. Ces sacrements supernaturels et célestes ont des signes de notre terrestre condition. Son adoration s'exprime par office et paroles sensibles, car c'est l'homme qui croit et qui prie. Je laisse à part les autres arguments qui s'emploient à ce sujet, mais à peine me ferait-on à croire que la vue de nos crucifix et peintures de ce piteux supplice, que les ornements et mouvements cérémonieux de nos églises, que les voix accommodées à la dévotion de notre pensée et cette émotion des sens n'échauffent l'âme des peuples d'une passion religieuse de très utile effet. De celles auxquelles on a donné corps comme la nécessité l'a requis parmi cette cécité universelle, je me fusse, ce me semble, plus volontiers attaché à ceux qui adoraient le soleil. La lumière commune, l'œil du monde et si Dieu au chef porte des yeux, les rayons du soleil sont ses yeux radieux, qui donnent vie à tous, d'où maintiennent et les gardent, et les faits des humains en ce monde regardent. Ce beau, ce grand soleil, qui nous fait les saisons, selon qu'il entre ou sort de ses 12 maisons, qui remplit l'univers de ses vertus connues, qui d'un trait de ses yeux nous dissipe les nues, l'esprit, l'âme du monde, ardent et flamboyant, en la course d'un jour tout le ciel tournoyant, plein d'immenses grandeurs, rond, vagabond et ferme, lequel tient dessous lui tout le monde pour terme, et repos sans repos, oisif, et sans séjour, fils aîné de nature et le père du jour. D'autant qu'outre cette science, grandeur et beauté, c'est la pièce de cette machine que nous découvrons la plus éloignée de nous, et par ce moyen si peu connu qu'ils étaient pardonnables d'en entrer en admiration et révérence. Thalès, qui le premier s'enquêta de telle matière, estima Dieu un esprit qui fit d'eau toute chose. Anaximandère que les dieux étaient mourants et naissants à diverses saisons, et que c'étaient des mondes infinis en nombre. Anaximénès que l'air était dieu, qu'il était produit et immense, toujours mouvant. Anaxagoras le premier a tenu la description et manière de toutes choses être conduite par la force et raison d'un esprit infini. Alcméon a donné la divinité au soleil, à la lune, aux astres et à l'âme. Pythagoras a fait Dieu un esprit épandu par la nature de toutes choses d'où nos âmes sont déprises. Parménide, un cercle, entournant le ciel et maintenant le monde par l'ardeur de la lumière. Empédocle disait être des dieux les quatre natures desquelles toutes choses sont faites. Protagoras ne voit rien que dire, s'ils sont ou non, ou quels ils sont. Démocrite, tantôt que les images et leurs circulations sont Dieu, tantôt cette nature qui élance ces images, et puis notre science et intelligence. Platon dissipe sa créance à divers visages. Il dit au Timée, le père du monde, de se pouvoir nommer, aux lois qu'il ne se faut enquérir de son être. Et ailleurs, en ces mêmes livres, il fait le monde, le ciel, les astres, la terre et nos âmes Dieu, et reçoit en outre ceux qui ont été reçus par l'ancienne institution en chaque république. Xénophon rapporte un pareil trouble de la discipline de Socrate, tantôt qu'il ne se faut enquérir de la forme de Dieu, et puis il lui fait établir que le soleil est Dieu et l'âme Dieu, qu'il n'y en a qu'un et puis qu'il y en a plusieurs. Spesippus, neveu de Platon, fait Dieu certaines forces gouvernant les choses et qu'elle est animale. Aristote a à cette heure que c'est l'esprit et à cette heure le monde. À cette heure, il donne un autre maître à ce monde et à cette heure, fait Dieu l'ardeur du ciel. Xénocrate en fait 8, les 5 nommés entre les planètes, le 6e composé de toutes les étoiles fixes, comme de ses membres, le 7e et 8e, le soleil et la lune. Héraclides Ponticus ne fait que vaguer entre ses avis et enfin prive Dieu de sentiments, et le fait remuant de forme à autre, et puis il dit que c'est le ciel et la terre. Théophraste se promène de pareilles résolutions entre toutes ses fantaisies, attribuant l'intendance du monde tantôt à l'entendement, tantôt au ciel, tantôt aux étoiles. Straton, que ses natures ayant la force d'engendrer, augmenter et diminuer sans forme et sentiment. Zénon, la loi naturelle, commandant le bien et prohibant le mal. Laquelle loi est un animant, et ôte les dieux accoutumés, Jupiter, Juno, Vesta, Diogène, Apolloniate, dit que c'est l'âge, Xénophanes fait du Euron, voyant, oyant, non respirant, n'ayant rien de commun avec l'humaine nature. Aristo estime la forme de Dieu incomprenable, le prive de sens et ignore s'il est animant ou autre chose. Cléante, tantôt la raison, tantôt le monde, tantôt l'âme de nature, tantôt la chaleur suprême entourant et enveloppant tout. Perséus, auditeur de Zénon, a tenu, qu'on a surnommé Dieu, ce qui avait apporté quelque notable utilité à l'humaine vie et les choses mêmes profitables. Chrysippus faisait un amas confus de toutes les précédentes sentences et compte entre 1000 formes de Dieu qu'il fait, les âmes aussi, qui sont immortalisées. Diagoras et Théodorus niaient tout sec qu'il y eut des dieux. Épicure fait les dieux luisants, transparents, et perflables, logés, comme entre deux forts, entre deux mondes, à couvert des coups. Revêtus d'une humaine figure et de nos membres, lesquels membres leur sont de nul usage. Fiez-vous à votre philosophie. Vantez-vous d'avoir trouvé la fève au gâteau, avoir ce tintamarre de tant de cervelle philosophique. Le trouble des formes mondaines a gagné sur moi que les diverses mœurs et fantaisies aux miennes ne me déplaisent pas tant comme elles m'instruisent, ne m'engueillissent pas tant comme elles m'humilient en les conférant. Et tout autre choix que celui qui vient de la main expresse de Dieu me semble choix de peu de prérogatives. Les polices du monde ne sont pas moins contraires en ce sujet que les écoles, par où nous pouvons apprendre que la fortune même n'est pas plus diverse et variable que notre raison, ni plus aveugle et inconsidérée. Les choses les plus ignorées sont plus propres à être défiées, déifiées. Par quoi de faire de nous des dieux, comme l'ancienneté, cela surpasse l'extrême faiblesse de discours. J'eusse encore plutôt suivi ce qui adorait le serpent, le chien et le bœuf, d'autant que leur nature et leur être nous est moins connue et avons plus de lois d'imaginer ce qu'il nous plaît de ces bêtes-là et de leur attribuer des facultés extraordinaires. Mais d'avoir fait des dieux de notre condition, de laquelle nous devons connaître l'imperfection, leur avoir attribué le désir, la colère, les vengeances, les mariages, les générations et les parentèles, l'amour et la justice, nos membres et nos os, nos fièvres et nos plaisirs, nos morts et sépultures. Il faut que cela soit parti d'une merveilleuse ivresse de l'entendement humain. Comme devoir attribuer la divinité non seulement à la foi, à la vertu, à l'honneur, concorde, liberté, victoire, piété, mais aussi à la volupté, fraude, mort, envie, vieillesse, misère, à la peur, à la fièvre et à la malfortune et autres injures de notre vie, frêle et caduque. Les Égyptiens, d'une impudente prudence, défendaient, sur peine de la harpe, que nul eût à dire que Sérapis et Isis, leurs dieux, eussent autrefois été hommes, et nul n'ignorait qu'ils ne l'eussent été. Et leur effigie représentée le doigt sur la bouche signifiait, dit Varron, cette ordonnance mystérieuse à leurs prêtres de taire leur origine mortelle comme par raison nécessaire annulant toute leur vénération. Puis que l'homme désirait tant de s'apparier à Dieu, il eût mieux fait, dit Cicéron, de ramener à soi les conditions divines et les attirer sabbat que d'envoyer là-haut sa corruption et sa misère. Mais à le bien prendre, il a fait en plusieurs façons et l'un et l'autre de pareille vanité d'opinion. Quand les philosophes épluchent la hiérarchie de leurs dieux et font les empresser à distinguer leurs alliances, leurs charges et leurs puissances, je ne puis pas croire qu'ils parlent à certes. Quand Platon nous déchiffre le verger de Pluton et les commodités ou peines corporelles qui nous attendent encore après la ruine et anéantissement de nos corps et les accommode aux ressentiments que nous avons dans cette vie, quand Mahomet promet aux siens un paradis tapissé paré d'or et de pierreries, peuplé de garces d'excellente beauté, de vins et de vivres singuliers, je vois bien que ce sont des moqueurs qui se plient à notre bêtise pour nous en mieler et attirer par ses opinions et espérances convenables à notre mort appétit. S'ils sont aucun des nôtres tombés en pareille erreur, se promettant après la résurrection une vie terrestre et temporelle accompagnée de toutes sortes de plaisirs et commodités mondaines. Croyons-nous que Platon, lui qui a eu ces conceptions si célestes et si grande accointance à la divinité, que le surnom lui en est demeuré, ait estimé que l'homme, cette pauvre créature, eut rien en lui d'applicable à cette incompréhensible puissance, et qu'il ait cru que nos prises languissantes fussent capables, ni la force de notre sens assez robuste, pour participer à la béatitude ou peine éternelle. Il faudrait lui dire, de la part de la raison humaine, « Si les plaisirs que tu nous promets en l'autre vie sont de ceux que j'ai sentis là-bas, cela n'a rien de commun avec l'infinité. Quand tous mes cinq sens de nature seraient comblés de liesse, et cette âme saisie de tout le contentement qu'elle peut désirer et espérer, nous savons ce qu'elle peut. Cela, ce ne serait encore rien. S'il y a quelque chose du mien, il n'y a rien de divin, si cela n'est autre que ce qui peut appartenir à cette notre condition présente, il ne peut être mis en compte. Tout contentement des mortels est mortel. La reconnaissance de nos parents, de nos enfants et de nos amis, si elle nous peut toucher et chatouiller en notre monde, si nous tenons encore à un tel plaisir, nous sommes dans les commodités terrestres et finies. Nous ne pouvons dignement concevoir la grandeur de ces hautes et divines promesses si nous les pouvons aucunement concevoir. Pour dignement les imaginer, il les faut imaginer inimaginables, indicibles et incompréhensibles, et parfaitement autres que celles de notre misérable expérience. Œil ne saurait voir, dit saint Paul, et ne peut monter en cœur d'homme l'heure que Dieu prépare aux siens. Et si, pour nous en rendre capables, on reforme et rechange notre être, comme tu dis Platon par les purifications, ce doit être d'un si extrême changement et si universel que par la doctrine physique, ce ne sera plus nous. Ce sera quelque autre chose qui recevra ses récompenses. Car en la mettant psychose de Pythagoras et changement d'habitation qu'il imaginait aux âmes, pensons-nous que le lion, dans lequel est l'âme de César, épouse les passions qui touchaient César, ni que ce soit lui? Si c'était encore lui, cela aurait raison qui, combattant cette opinion contre Platon, lui reproche que le fils se pourrait trouver à chevaucher sa mère, revêtue d'un corps de mule, et semblables absurdités. Et pensons-nous qu'est-ce mutation qui se font des corps des animaux en autres de même espèce, les nouveaux venus ne soient autres que leurs prédécesseurs? Descendre d'un phénix s'engendre, dit-on, un ver, et puis un autre phénix. Ce second phénix, qui peut imaginer qu'il ne soit autre que le premier? Les vers qui font notre soi, on les voit comme mourir et assécher, et de ce même corps se produire un papillon, et de là un autre vers, qu'il serait ridicule d'estimer être encore le premier. Ce qui a cessé une fois d'être n'est plus. Et quand tu dis ailleurs, Platon, que ce sera la partie spirituelle de l'homme à qui il touchera de jouir des récompenses de l'autre vie, tu nous dis chose d'aussi peu d'apparence. Car à ce compte, ce ne sera plus l'homme, ni nous par conséquent, à qui touchera cette jouissance, car nous sommes bâtis de deux pièces principales essentielles, desquelles la séparation, c'est la mort et ruine de notre être. Nous ne disons pas que l'homme souffre quand les vers lui rongent ses membres, de quoi il vivait, et que la terre les consomme. Davantage, sur quel fondement de leur justice peuvent les dieux reconnaître et récompenser à l'homme après sa mort ses actions bonnes et vertueuses, puisque ce sont eux-mêmes qui les ont acheminées et produites en lui? Et pourquoi s'offensent-ils et vengent sur lui les vicieuses, puisqu'ils l'ont eux-mêmes produit en cette condition fautive, et que d'un seul clin de leur volonté, ils le peuvent empêcher de faillir? Épicure opposerait-il pas cela à Platon avec grande apparence de l'humaine raison, s'il ne se couvrait souvent par cette sentence? Qu'il est impossible d'établir quelque chose de certain de l'immortelle nature par la mortelle. Elle ne fait que fourvoyer partout, mais spécialement quand elle se mêle des choses divines. Qui le sent plus évidemment que nous? Car encore que nous lui ayons donné des principes certains et infaillibles, encore que nous éclairions ses pas par la sainte lampe de la vérité, qu'il a plu à Dieu et nous communiquer, et nous voyons pourtant journellement, pour peu qu'elle se démande du sentier ordinaire et qu'elle se détourne ou écarte de la voie tracée et battue par l'Église, comme tout aussitôt elle se perd, s'embarrasse et s'entrave, tournoyant et flottant dans cette mer vaste, trouble et ondoyante des opinions humaines sans bride et sans but. Aussitôt qu'elle perd ce grand et commun chemin, elle se va divisant et dissipant en mille routes diverses. L'homme ne peut être que ce qu'il est, ni imaginer que selon sa portée. C'est plus grande présomption, dit Plutarque, à ceux qui ne sont qu'hommes, d'entreprendre de parler et discourir des dieux et des demi-dieux, que ce n'est à un homme ignorant de musique vouloir juger de ce qui chante, ou à un homme qui ne fut jamais au camp vouloir disputer des armes et de la guerre en présumant comprendre par quelques légères conjectures les effets d'un art qui est hors de sa connaissance. L'ancienneté pensa, se crois-je, faire quelque chose pour la grandeur divine, de l'apparier à l'homme, la vêtir de ses facultés et traîner de ses belles humeurs et plus honteuses nécessités, lui offrant de nos viandes à manger, de nos danses, momeries et farces à la réjouir, de nos vêtements à se couvrir et maisons à loger, la caressant par l'odeur des encens et sons de la musique, festons et bouquets, et pour l'accommoder à nos vicieuses passions, flattant sa justice d'une inhumaine vengeance, les jouissant de la ruine et dissipation des choses par elle créées et conservées, comme Tiberius Sempronius, qui fit brûler, pour sacrifice à Vulcan, les riches dépouilles et armes qu'il avait gagnées sur les ennemis en la Sardaigne. Et Polémile, celle de Macédoine, à Mars et à Minerve, et Alexandre, arrivé à l'océan indigné, jeta en mer en faveur de Tétis plusieurs grands vases d'or, remplissant en outre ses autels d'une boucherie non de bêtes innocentes seulement, mais d'hommes aussi, ainsi que plusieurs nations, et entre autres la nôtre, avaient en usage ordinaire, et croient qu'il n'en est aucune exempte d'en avoir fait essai. Les jettes se tiennent immortels, et leur mourir n'est que s'acheminer vers leur dieu Zalmoxis. De 5 en 5 ans, ils dépêchent vers lui quelqu'un d'entre eux pour le requérir des choses nécessaires. Ce député choisit au sort, et la forme de le dépêcher, après l'avoir de bouche informé de sa charge, est que, de ceux qui l'assistent, 3 tiennent debout autant de javelines sur lesquelles les autres le lancent à force de bras. S'il vient à s'enfermer en lieu mortel et qu'il trépasse soudain, cela est certain argument de faveur divine. S'il en échappe, il l'estime méchant et exécrable et en députe encore un autre de même. Amestris, mère de Xerxès, devenue vieille, fit pour une fois ensevelir tout vif 14 jouvenceaux des meilleures maisons de Perse, suivant la religion du pays, pour gratifier à quelque dieu souterrain. Encore aujourd'hui, les idoles de Thémistitan se cimentent du sang des petits-enfants et n'aiment sacrifice que de ces puériles et pures âmes. Justice affamée du sang de l'innocence. Les Carthaginois immolaient leurs propres enfants à Saturne, et qui n'en avaient point en achetaient, étant cependant le père et la mère tenus d'assister à cet office avec contenance gaie et contente. C'était une étrange fantaisie de vouloir payer la bonté divine de notre affliction, comme les Lacédémoniens qui mignardaient leur Diane par bourrellement de jeunes garçons qu'il faisait fouetter en sa faveur, souvent jusque à la mort. C'était une humeur farouche de vouloir gratifier l'architecte de la subversion de son bâtiment et de vouloir garantir la peine due aux coupables par la punition des non-coupables. Et que la pauvre Iphigénie au port d'Olyde, par sa mort et par son immolation, déchargea envers Dieu l'armée des Grecs des offenses qu'ils avaient commises. Et ces deux belles et généreuses âmes des deux Décius, père et fils, pour propitier la faveur des dieux envers les affaires romaines, s'alla se jeter à corps perdu à travers le plus épais des ennemis. Joint que ce n'est pas au criminel de se faire fouetter à sa mesure et à son heure, c'est au juge qui ne met en compte de châtiment que la peine qu'il ordonne et ne peut attribuer à punition ce qui vient à gré à celui qui le souffre. La vengeance divine présuppose notre dissentiment entier pour sa justice et pour notre peine. Et fut ridicule l'humeur de Polycrate, tyran de Samos, lequel, pour interrompre le cours de son continuel bonheur et le compenser, alla jeter en mer le plus cher et précieux joyau qu'il eût, estimant que par ce malheur aposté, il satisfaisait à la révolution et vicissitude de la fortune. Et elle, pour se moquer de son ineptie, fit que ce même joyau revint encore en ses mains, trouvé au ventre d'un poisson. Et puis à quel usage les déchirements et désembrements des corribantes, des ménades et en autant des mahométans qui s'esbalafrent le visage, l'estomac, les membres pour gratifier leurs prophètes. Vu que l'offense consiste en la volonté et non en la poitrine, aux yeux, aux génitoires, en l'embonpoint, aux épaules et aux gosiers. Cette contexture naturelle regarde par son usage non seulement nous, mais aussi le service de Dieu et des autres hommes. C'est injustice de l'affoler à notre escient comme de nous tuer pour quelque prétexte que ce soit. Ce semble être grande lâcheté et trahison de matiner et corrompre les fonctions du corps, stupides et serves, pour épargner à l'âme la sollicitude de les conduire selon raison. Or, rien du nôtre ne se peut apparier ou rapporter en quelque façon que ce soit à la nature divine qui ne l'attache et marque d'autant plus affection. Cette infinie beauté, puissance et bonté, comment peut-elle souffrir quelques correspondances et similitudes à choses si abjectes que nous sommes, sans un extrême intérêt et déchet de sa divine grandeur? Slipon, le philosophe, interrogé si les dieux se jouissent de nos honneurs et sacrifices. « Vous êtes indiscret, répondit-il. Retirons-nous à part, si vous voulez parler de cela. Toutefois, nous lui prescrivons des bornes. Nous tenons sa puissance assiégée par nos raisons. J'appelle raison nos rêveries et nos songes, avec la dispense de la philosophie qui dit « le fol même et le méchant forcément par raison ». Mais que c'est une raison de particulière forme. Nous le voulons asservir aux apparences vaines et faibles de notre entendement, lui qui a fait et nous et notre connaissance. Parce que rien ne se fait de rien, Dieu n'aura su bâtir le monde sans matière. Quoi ? Dieu nous a-t-il mis en main les clés et les derniers ressorts de sa puissance ? S'est-il obligé à outrepasser les bornes de notre science ? Mais le cas, ô homme, que tu aies pu remarquer ici quelques traces de ses effets, penses-tu qu'il y ait employé tout ce qu'il a pu et qu'il y ait mis toutes ses formes et toutes ses idées en cet ouvrage? Tu ne vois que l'ordre et la police de ce petit caveau où tu es logé, au moins si tu la vois. Sa divinité a une juridiction infinie au-delà. Cette pièce n'est rien au prix de tout. C'est une loi municipale que tu allègues, tu ne sais pas quel est l'universel. Attache-toi à ce à quoi tu es sujet, mais non pas lui. Il n'est pas ton contraire ou concitoyen ou compagnon. S'il s'est aucunement communiqué à toi, ce n'est pas pour se ravaler à la petitesse ni pour te donner le contredit de son pouvoir. Le corps humain ne peut voler au nu, c'est pour toi. Le soleil branle sans séjour sa course ordinaire, les bornes des mers et de la terre ne se peuvent confondre, l'eau est instable et sans fermeté, un mur est sans froissure impénétrable à un corps solide, l'homme ne peut conserver sa vie dans les flammes, il ne peut être et au ciel et en la terre et en milieu ensemble corporellement. C'est pour toi qu'il a fait ces règles, c'est toi qu'elles attaquent. Il a témoigné aux chrétiens qu'il les a toutes franchies quand il lui a plu. De vrai, pourquoi tout-puissant comme il est, aurait-il restreint ses forces à certaines mesures? En faveur de qui aurait-il renoncé son privilège? Ta raison n'en a aucune autre chose plus de vérissimilitude et de fondement qu'en ce qu'elle te persuade de la pluralité des mondes. Les plus fameux esprits du temps passé l'ont cru, et aucun des nôtres même, forcé par l'apparence de la raison humaine. D'autant qu'en ce bâtiment que nous voyons, il n'y a rien seul et un, et que toutes les espèces sont multipliées en quelque nombre. Par où il semble n'être pas vraisemblable que Dieu ait fait ce seul ouvrage sans compagnon et que la matière de cette forme ait été toute expulsée en ce seul individu. Notamment, si c'est un animant, comme ses mouvements le rendent si croyable que Platon l'assure et plusieurs des nôtres qui le confirment ou ne l'osent infirmer. Non plus que cette ancienne opinion que le ciel, les étoiles et autres membres du monde sont créatures composées de corps et âmes, mortelles en considération de leur composition, mais immortelles par la détermination du Créateur. Or, s'il y a plusieurs mondes, comme Démocrite, Épicure et presque toute la philosophie a pensé, que savons-nous si les principes et les règles de celui-ci touchent pareillement les autres? Ils ont à l'aventure autre visage et autre police. Épicure les imagine ou semblables ou dissemblables. Nous voyons en ce monde une infinie différence et variété pour la seule distance des lieux. Ni le blé ni le vin se voient, ni aucun de nos animaux, en ce nouveau coin du monde que nos pères ont découvert. Tout y est divers, et au temps passé, voyez en combien de parties du monde on n'avait connaissance ni de Bacchus ni de Cérès. Qui en voudra croire Pline et Hérodote, il y a des espèces d'hommes en certains endroits qui ont fort peu de ressemblance à la nôtre. Et il y a des formes métisses et ambiguës entre l'humaine nature et la brutale. Il y a des contrées où les hommes naissent sans tête, portant les yeux et la bouche en la poitrine, où ils sont tous androgynes, où ils marchent de quatre pattes, où ils n'ont qu'un œil au front et la tête plus semblable à celle d'un chien qu'à la nôtre, où ils sont moitié poissons par en bas et vivent en haut, où les femmes accouchent à 5 ans et n'en vivent que 8, où ils ont la tête si dure et la peau du front que le fer n'y peut mordre et rebouche contre, où les hommes sont sans barbe, des nations sans usage de feu, d'autres qui rendent le sperme de couleur noire. Quoi ? Ce qui naturellement se change en loup, en jument, et puis encore en homme. Et s'il est ainsi, comme dit Plutarque, qu'en quelque endroit des Indes, il y a des hommes sans bouche, se nourrissant de la senteur de certaines odeurs, combien y a-t-il de nos descriptions fausses? Il n'est plus risible, ni à l'aventure capable de raison et de société. L'ordonnance est la cause de notre bâtiment interne, serait pour la plupart hors de propos. Davantage, combien y a-t-il de choses en notre connaissance qui combattent ces belles règles que nous avons taillées et prescrites à la nature? Et nous entreprendrons d'y attacher Dieu même. Combien de choses appelons-nous miraculeuses et contre nature? Cela se fait par chaque homme et par chaque nation, selon la mesure de son ignorance. Combien trouvons-nous de propriétés occultes et de quintessence? Car aller selon notre nature, pour nous, ce n'est qu'aller selon notre intelligence, autant qu'elle peut suivre et autant que nous y voyons. Ce qui est au-delà est monstrueux et désordonné. Or, à ce compte, au plus avisé et au plus habile, tout sera donc monstrueux, car à cela l'humaine raison a persuadé qu'elle n'avait ni pied ni fondement quelconque, non pas seulement pour assurer si la neige est blanche, et Anaxagoras la disait noire, s'il y a quelque chose ou s'il n'y a nulle chose, s'il y a science ou ignorance, ce que Maître de Ruscius niait l'homme pouvoir dire. Or, si nous vivons, comme Euripide est en doute, si la vie que nous vivons est vie, ou si c'est ce que nous appelons mort qui soit vie. Et non sans apparence. Car pourquoi prenons-nous titre d'être de cet instant qui n'est qu'une Héloïse dans le cours infini d'une nuit éternelle et une interruption si brève de notre perpétuelle et naturelle condition? La mort occupant tout le devant et tout le derrière de ce moment, et encore une bonne partie de ce moment. D'autres jurent qu'il n'y a point de mouvement, que rien ne bouge, comme les suivants de Mélissus, car s'il n'y a qu'un, ni ce mouvement sphérique ne lui peut servir, ni le mouvement de lieu à autre, comme Platon prouve, qu'il n'y a ni génération ni corruption en nature. Protagoras dit qu'il n'y a rien en nature que le doute, que de toutes choses on peut également disputer, et de cela même, si on peut également disputer de toutes choses. Mansiphanès, que des choses qui semblent, rien non plus que non est, qu'il n'y a d'autre certain que l'incertitude. Parménide, que de ce qu'il semble, il n'est aucune chose en général, qu'il n'est qu'un, et Zénon, qu'un même n'est pas, et qu'il n'y a rien. Si un était, il serait ou en un autre, ou en soi-même. S'il est en un autre, ce sont deux. S'il est en soi-même, ce sont encore deux, le comprenant et le compris. Selon ces dogmes, la nature des choses n'est qu'une ombre ou fausse ou vaine. Il m'a toujours semblé qu'à un homme chrétien, cette sorte de parler est pleine d'indiscrétion et d'irrévérence. Dieu ne peut mourir, Dieu ne se peut dédire, Dieu ne peut faire ceci ou cela. Je ne trouve pas bon d'enfermer ainsi la puissance divine sous les lois de notre parole. Et l'apparence qui s'offre à nous en ces propositions, il la faudrait représenter, puis révérament et plus religieusement. Notre parler a ses faiblesses et ses défauts, comme tout le reste. La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiens. Nos procès ne naissent que du débat de l'interprétation des lois. Et la plupart des guerres, de cette impuissance de n'avoir su clairement exprimer les conventions et traiter la mort des princes. Combien de querelles et combien importantes a produit au monde le doute du sens de cette syllabe. Hoc. Prenons que la clause, que la logique même nous présentera pour la plus claire. Si vous dites « il fait beau temps » et que vous disiez « vérité », il fait donc beau temps. Voilà pas une forme de parler certaine? Encore nous trompera-t-elle? Qu'il soit ainsi, suivons l'exemple. Si vous dites « je mens » et que vous disiez vrai, vous mentez donc. L'art, la raison, la force de la conclusion de celle-ci sont pareils à l'autre. Toutefois, vous voilà embourbé. Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives qui leur sont du tout ennemies, de façon que quand ils disent « je doute », on les tient incontinent à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins assurent et savent-ils cela qu'ils doutent. Ainsi on les a contraints de se sauver dans cette comparaison de la médecine sans laquelle leur humeur serait inexplicable. Quand ils prononcent « j'ignore » ou « je doute », ils disent que cette proposition s'emporte elle-même quand et quand le reste. Ni plus ni moins que la rhubarbe, qui pousse hors les mauvaises humeurs et s'emporte hors quand et quand elle-même. Cette fantaisie est plus sûrement conçue par interrogation « que sais-je ?» comme je la porte à la devise d'une balance. Voyez ? Comment on se prévaut de cette sorte de parler pleine d'irrévérence? Aux disputes qui sont à présent en notre religion, si vous pressez trop les adversaires, ils vous diront tout détroussément qu'il n'est pas en la puissance de Dieu de faire que son corps soit en paradis et en la terre et en plusieurs lieux ensemble. Et ce moqueur ancien, comment il en fait son profit? Au moins, dit-il, est-ce une non légère consolation à l'homme de ce qu'il voit Dieu ne pouvoir pas toute chose, car il ne se peut tuer quand il le voudrait, qui est la plus grande faveur que nous ayons à notre condition, il ne peut faire les mortels immortels, ni revivre les trépassés, ni que celui qui a vécu n'ait point vécu, celui qui a eu des honneurs ne les ait point eus, n'ayant autre droit sur le passé que de l'oubliance. Et afin que cette société de l'homme à Dieu s'accouple encore par des exemples plaisants, il ne peut faire que 2 × 10 ne soit 20. Voilà ce qu'il dit, et qu'un chrétien devrait éviter de passer par sa bouche. Là où, au rebours, il semble que les hommes recherchent de folles fiertés de langage pour ramener Dieu à leur mesure. Quand nous disons que l'infinité des siècles, tant passé qu'à venir, n'est à Dieu qu'un instant, que sa bonté, sapience, puissance sont même chose avec son essence, notre parole le dit, mais notre intelligence ne l'appréhende point. Et toutefois, notre outrecuidance veut faire passer la divinité par notre estamine, et de là s'engendre toutes les rêveries et erreurs desquelles le monde se trouve saisi, ramenant et pesant à sa balance choses si éloignées de son poids.